Science en question par Étienne Klein. Aujourd'hui, les sciences sont-elles affaire d'observation ou de théorie ? On entend souvent dire que la science serait affaire d'observation, parfois même qu'il suffirait d'observer pour comprendre, comme si le monde était à la fois exhibitionniste et parfaitement pédagogue en matière de lui-même. Il suffirait en somme de le regarder avec attention, puis de procéder à quelques déductions pour connaître les lois qui le gouvernent. Pourtant, en physique, l'exemple de la chute des corps montre que les choses ne sont pas si simples. La bonne compréhension des lois qui régissent la façon qu'ont les corps de tomber doit en effet presque tout à des expériences dites de pensée et non à des observations, à des expériences de pensée inventées à plusieurs siècles d'intervalle par des esprits puissants. Par Galilée, par exemple, qui comprend dès 1604 que la gravité fait tomber les meules de moulin exactement à la même vitesse que les plumes, alors que dans la vie courante, l'observation nous porte à croire que les objets les plus lourds tombent plus vite que les objets les plus légers. Comment Galilée procéda-t-il ? Eh bien, en inventant des expériences de pensée qui consistent en des ruses de la fiction permettant à la raison de s'écarter du réel pour ensuite mieux l'interroger. Mais alors que déferlent le big data et l'intelligence artificielle, la question se pose de savoir si nous allons continuer d'honorer la pensée spéculative, de formuler des hypothèses, d'inventer des concepts. D'aucuns avancent en effet que lorsque nous disposerons d'une quantité de données suffisante, les nombres, convenablement analysés par des algorithmes, parleront mieux et diront davantage sur le monde que les théories physiques. C'est ma foi possible, mais toutes les sciences n'utilisent pas les mêmes méthodes, de sorte que ce qui vaut pour la physique ne vaut pas nécessairement, par exemple, pour les sciences naturelles. Alors posons-nous cette question. Quel rôle jouent dans les sciences naturelles les données et les observations ? Les naturalistes inventent-ils, eux aussi, comme les physiciens, des expériences de pensée ? Et de quelle façon théorisent-ils ? Pour répondre à ces questions, j'ai le plaisir de recevoir Bruno David. Bonjour.
Bonjour.
Nos auditeurs vous connaissent bien, puisque vous avez pendant toute l'année lu cette chronique « Le pourquoi du comment » après notre émission. Vous êtes géologue, biologiste, paléontologue, président du Muséum naturel d'histoire naturelle. Et je crois que vous avez souhaité que nous rendions, pour commencer cette émission, un hommage à Yves Coppens, qui nous a quittés le 22 juin dernier, que vous avez bien connu, je crois.
Oui, je pense que c'était vraiment un très bon moment pour le faire. Donc Yves Coppens, bien évidemment, est connu comme étant un des co-découvreurs de Lucie en 1974. Ça a vraiment été une découverte majeure de la paléontologie. On imagine peu maintenant, avec le recul, plus de 40 ans de recul, à quel point ça a été un bouleversement de trouver un ancêtre avec un squelette extrêmement bien préservé. C'est ce qu'il faut savoir, c'est un squelette très très bien préservé, qui date de 3,5 millions d'années. C'était gigantesque. C'est un saut dans le passé absolument énorme, alors qu'il a été dépassé depuis. Mais bon.
Mais qu'est-ce que ça a changé dans la façon de penser, de raconter notre histoire ?
Ça a vraiment montré que notre origine se passait sans doute dans l'Est africain. Enfin, du moins, c'est ce qu'on pensait à l'époque. Après, depuis, on a trouvé Toumaï dans l'Ouest africain, donc c'est plus compliqué. Les choses sont souvent toujours plus compliquées que celles que... la manière dont on les pense au début, mais ça a amené Coppens à faire cette théorie de l'East African Story et de montrer que notre origine était sans doute dans l'Est africain, dans cette savane de l'Est africain de l'époque, avec des australopithèques qui étaient de petite taille. Donc ça a vraiment bouleversé les choses. Ensuite, bon, il a été un très grand préhistorien, un très grand paléontologue, il a fait beaucoup de choses. Et moi, ce que je retiens vraiment de lui, pour l'avoir côtoyé assez régulièrement quand même, c'est cette malice dans le regard, cet art de raconter des histoires. C'est un conteur extraordinaire. Je me souviens d'une scène avec lui à Dijon où il m'expliquait les molaires des australopithèques en me montrant avec les mains littéralement comment elles pouvaient fonctionner. Donc c'était un extraordinaire conteur et toujours avec un regard extrêmement malicieux à tel point qu'on pouvait parfois se demander s'il n'était pas au deuxième degré. Mais du côté scientifique, je ne pense pas.
Juste avant sa mort est paru son autobiographie qui s'intitule Une mémoire de mammouth, qui est paru je crois il y a 2 mois, et dont évidemment nous recommandons la lecture. Alors venons-en, Bruno David, à cette notion d'expérience de pensée. C'est une notion assez vague, elle peut être déclinée de façon différente selon les différents champs disciplinaires. Il y a d'abord une conception triviale de l'expérience de pensée, une sorte d'état fondamental de niveau zéro de la chose. Ça consiste simplement à faire une hypothèse, c'est-à-dire à prononcer une phrase qui commence par « supposons que ». Et à partir de là, un raisonnement fait avec de la pensée peut s'enclencher. Évidemment, ce type d'exercice se pratique partout, dans toutes les disciplines. Mais vous qui travaillez dans les sciences naturelles, qui êtes biologiste, est-ce qu'il vous arrive souvent de dire « supposons que » ?
Non, c'est un petit peu plus difficile, c'est-à-dire que dans le domaine de l'histoire naturelle, on part toujours quand même d'un minimum d'observations réelles, d'observations, de faits, de caractères, quand on parle d'êtres vivants, de choses comme ça, et c'est sur la base déjà d'un embryon d'observation en quelque sorte qu'on peut être amené à aller au-delà et à construire une
théorie. Sorte d'induction alors.
C'est une forme d'induction, mais le point de démarrage, le nucléus en quelque sorte qui sert à construire cette induction autour, peut être relativement faible. Et notamment quand on regarde de grands prédécesseurs qui ont émis un certain nombre d'hypothèses, ils partaient des fois de pas grand-chose.
Donc il y a quand même une hypothèse qui est basée sur l'observation, mais qui constitue quand même un pari.
C'était des gros paris, oui, surtout dans des
on
temps un peu
des
éloignés.
Tout à l'heure, oui.
Et quand on parlait d'évolution, il y avait des fois des gros paris parce qu'il y avait l'Église derrière aussi qui a regardé ça de manière très très attentive et on pouvait assez facilement glisser vers un bûcher. Donc il y avait quand même aussi une prise de risque personnelle qui a peut-être amené certains à réfréner leurs ardeurs.
Alors à un niveau un peu plus construit, pour ce qui est des expériences de pensée, on trouve bien sûr la littérature, puisqu'on peut défendre l'idée que tout roman est une expérience de pensée combinant le réel et le fictionnel, la réalité et l'invention. Et bien sûr, c'est encore plus vrai pour la littérature de science-fiction, qui, comme son nom l'indique, peut s'offrir le luxe de s'émanciper à sa guise des contraintes provenant du réel ou des savoirs scientifiques. Et est-ce que vos sciences, Bruno David, les sciences naturelles, il faudra peut-être d'ailleurs les énumérer, combien y en a-t-il, est-ce que les sciences naturelles sont souvent source de science-fiction ?
Ah oui, je pense que ça a dû arriver pas mal de fois. Il y a des projections sur les animaux du futur. On voit bien aussi que dans la science-fiction se mettent en scène des formes vivantes qui sont très imaginaires. Mais souvent, moi je suis des fois un petit peu critique vis-à-vis de cette science-fiction, elle a quand même une certaine, comment dirais-je, de pauvreté d'imagination. Parce que quand on connaît bien le registre fossile, et notamment le registre fossile du tout début de l'ère primaire, par exemple, on est il y a pratiquement 500 millions d'années, on s'aperçoit qu'il y a des formes que les auteurs de science-fiction n'auraient même pas eu l'idée d'imaginer.
Il faut les aider. Il faut les aider. Même de la science-fiction.
Alors je vais vous donner un exemple quand même. Est-ce que vous auriez imaginé une sorte de bestiole avec des plaques un petit peu articulées qui aurait possédé 5 yeux jusque-là, bon, rien d'extraordinaire hein, finalement.
Si vous le dites.
Et puis une trompe. Alors un animal qui fait quelques centimètres, hein, une trompe et au bout de la trompe une paire de pinces. Ben ça existait. Ça s'appelle Opabinia. Ça vivait il y a 540 millions d'années.
Et c'était viable ?
Et c'était très viable, oui. Ça vivait très bien.
Et donc quel genre de milieu ?
Alors c'était un milieu marin, peu profond, milieu littoral,
mais
peu
si,
agité.
Bruno David, faisons une expérience de pensée pour le coup. Je vous montre un squelette. Un squelette avec des trucs bizarres. Est-ce que vous êtes capable de dire s'il a pu exister ou pas ? Ou est-ce que... Vous êtes capable de détecter une sorte d'anomalie qui montrerait que cette structure-là était impossible?
Ça dépend du niveau de bizarrerie, bien sûr. Mais si vous me montrez un vertébré à 12 pattes, je vous dirais non, ça n'a pas pu exister.
Pourquoi?
Certainement pas. Parce que la manière dont se construisent les vertébrés, le plan d'organisation, entre guillemets, des vertébrés, il est quand même assez bien calé et on sait comment ça se construit. On a aussi beaucoup de savoir et de documentation dans le domaine de la génétique du développement qui nous permet de comprendre comment ça marche, où sont les homologies. Et donc, on connaît un petit peu les limites du modèle. Donc ça me paraîtrait un petit peu bizarre. Alors après, il y a toujours des cas tératologiques aussi. Hein. Je veux dire, un mouton à 5 pattes, ça existe. Donc, si vous me présentez un squelette de mouton à 5 pattes, je vous dirais oui, c'est possible.
D'accord, donc il y a une façon de dire ceci est possible, ceci n'est pas possible, il n'a pas été possible. Alors si, et là je reviens encore à mes expériences de pensée pour explorer une nouvelle possibilité qu'elles ont de s'incarner dans la vie de la pensée, disons qu'à un niveau encore plus intellectuel, il y a la philosophie, la logique, où il y a énormément d'exemples d'expériences de pensée, et par exemple, on invente des objets ou des êtres qui permettent de penser des contradictions, de poser des problèmes. Par exemple, il y a le bateau de Thésée, il y a l'allégorie de la caverne de Platon, il y a l'anneau de Gigès chez le même Platon, il y a le malin génie de Descartes, il y a l'âne de Buridan, etc. Est-ce que chez vous, il y a aussi des objets là qui servent de support à la réflexion ou qui posent problème, des sortes de chimères?
Alors, il y a des objets qui servent de support à la réflexion parce que ça permet de mieux faire passer certains messages. Il y a un paléontologiste célèbre qui est Stephen Jay Gould qui a utilisé des éléments d'architecture notamment de Saint-Marc, de Venise mais aussi de l'abbaye de Westminster pour dire voilà, on a des éléments d'architecture qui sont une forme de triangle et qui sont la conséquence de la construction architecturale. On ne peut pas y échapper en quelque sorte. À partir du moment où on construit de cette manière-là, on a forcément ces triangles. Et ces triangles abritent des peintures, notamment à Saint-Marc, qui ont l'air d'être... vraiment, on a l'impression que le triangle est fait pour abriter ces peintures, ce qui n'est pas du tout le cas. Donc ça, c'est une comparaison qui a servi à faire comprendre que dans certaines situations, il y a des caractères qui n'ont pas été construits pour ce qu'ils font aujourd'hui. Ils n'ont pas les fonctions qu'ils ont aujourd'hui, ils ont eu d'autres fonctions avant, et ils sont la conséquence d'autres fonctions. Et donc, il a utilisé cette comparaison avec ce qu'on appelle des écoinçons, qui sont ces formes architecturales particulières, pour essayer de faire comprendre que des structures qui ont une certaine fonction aujourd'hui n'avaient peut-être pas cette même fonction dans le passé. Et on appelle ça l'exaptation dans le domaine de l'évolution biologique.
Est-ce qu'on est capable de dire, dans votre champ, voyant, constatant, c'est des données objectives, la chute de la biodiversité, ce qu'elle va provoquer? Est-ce qu'on sait le dire ou est-ce que, constatant cette chute, on ne peut que dire qu'elle va s'accentuer? Ou alors est-ce qu'on peut aller plus loin et dire cette chute va provoquer tel ou tel phénomène qui va nous concerner directement dans le futur?
Alors, on sait que la chute de la biodiversité va avoir des conséquences et que des écosystèmes vont être déstabilisés. Par contre, je le dis souvent, le vivant, il est par nature non prévisible parce qu'on ne peut pas le mettre en équation. Prédire ce que pourrait produire la chute de biodiversité, ça voudrait dire être en capacité de comprendre totalement comment fonctionne un écosystème avec toutes les espèces qui sont dans cet écosystème. Comprendre individu par individu, littéralement, quelles sont leurs capacités d'acclimatation, c'est-à-dire comment l'individu va pouvoir s'acclimater, par exemple, à un changement climatique. Comment les populations vont pouvoir s'adapter à ce changement climatique avec une partie qui serait héritable. Et si on est sur du plus long terme, comment tout ça pourrait évoluer sur un temps plus long. Et toutes ces choses-là en interaction les unes avec les autres, avec des centaines d'espèces différentes qui interagissent. Et quand je dis des centaines, c'est plutôt des milliers si on pense au nombre de bactéries qu'on abrite dans notre intestin. Donc ça veut dire que c'est d'une complexité telle qu'on ne peut pas faire de prédictions sur le long terme.
Mais si ça inquiète, c'est... parce qu'on ne peut pas prédire, ou est-ce que ça inquiète parce qu'on sait que ça va être grave?
On sait que c'est un saut dans l'inconnu. On sait qu'on se rapproche d'une falaise, en quelque sorte. On n'est pas très loin du bord de la falaise. On risque de tomber de la falaise, mais on ne sait pas si la falaise est très très haute et on ne sait pas s'il y a un matelas au pied de la falaise pour amortir notre chute. Mais on sait qu'on va tomber.
Alors maintenant, parlons de la physique un petit peu, parce que comme je l'ai dit dans mon introduction, la physique, c'est tout le contraire d'une bureaucratie des apparences. C'est pas en regardant les choses qu'on arrive à les classifier. Et si on reprend l'exemple de la chute des corps, Galilée, à une époque où personne ne pensait que le vide existait, d'ailleurs on pensait que le vide ne pouvait pas exister au motif que la nature en a horreur, a imaginé des expériences de pensée assez originales qui commencent toutes par « qu'est-ce qui se passerait si ?». Donc il imagine, par exemple, qu'Aristote a raison lorsqu'il écrit qu'un corps tombe d'autant plus vite qu'il est plus lourd. Il suppose que cette loi est vraie, et il imagine une expérience de pensée dans laquelle il prend une grosse pierre, qu'il attache par une ficelle à une petite pierre. Il imagine qu'il laisse tomber l'ensemble d'une certaine hauteur, et se demande que dirait la loi d'Aristote dans cette situation. Ben, la loi d'Aristote dit que ça va tomber plus vite que la grosse pierre toute seule, puisque l'ensemble formé par les deux pierres est plus lourd que la plus grosse. Mais en même temps, dit que la petite qui tombe moins vite va tendre la corde et faire parachute, de sorte qu'elle va freiner la chute de la plus grosse. Paradoxe, puisqu'il y a deux conclusions contradictoires à partir d'une même loi, paradoxe que Galilée résout en disant que tous les corps tombent à la même vitesse, ce qui n'est pas ce que nous voyons. Est-ce que vous, vous pratiquez ce genre d'expérience de pensée, Bruno David, dans votre domaine qui est le vaste champ des sciences naturelles ?
Non, je ne pense pas qu'on aille aussi loin que ça, parce qu'il faut toujours qu'on démarre sur quelque chose de peut-être un petit
peu... Galilée démarre aussi sur...
Oui, il démarre aussi
sur... Il ne part pas de rien, quelque chose. Il part d'une loi. Et il en examine la consistance en imaginant des situations qui permettent de voir ce qu'elle prédit dans des situations qu'on peut facilement penser peut-être, mais pas forcément réaliser.
Oui, mais j'ai l'impression qu'on est peut-être plus limité par encore plus limité qu'en physique par l'observation, et il faut comprendre aussi que dans le domaine de l'histoire naturelle au sens large, il y a peu de lois absolues. Il n'y a même pas de loi absolue. Il y a beaucoup d'événements, il y a beaucoup de contingences. Mais il n'y a pas de loi au sens strict, c'est-à-dire qu'on ne peut pas prédire l'état B à partir de l'analyse de l'état A, et on ne peut pas non plus rétro-prédire. C'est-à-dire que si on observe la vie sur Terre aujourd'hui, et si on n'avait aucun fossile et aucune information sur le passé géologique de la Terre, ce n'est pas en observant la biodiversité actuelle qu'on serait en capacité de dire qu'est-ce qui s'est passé avant et par quel chemin nous en serions arrivés là. Ça n'est pas possible. Et si on rembobinait le film de l'évolution jusqu'il y a, mettons, 500 millions d'années, à l'époque où vivait Opabinia avec cette trompe et cette...
Le fameux.
Si on rembobinait le film et qu'on le remettait en route, il y a une certitude quasi absolue que le film ne serait pas le même.
Et Darwin, comment est-ce qu'il a fait, lui, pour aboutir à ce qu'on appelle une théorie ? C'est pas une théorie mathématisable, mais c'est quand même une théorie, une façon de penser l'évolution. Quelle est la part des observations et quelle est la part de théorisation qu'il a faite à partir des observations?
Darwin, c'est une forme d'expérience de pensée dans le domaine de l'histoire naturelle. Donc on connaît bien son voyage sur le Beagle, son embarquement, sa découverte d'un certain nombre de sites, et notamment les Galapagos, avec ces fameux pinsons des Galapagos, avec des formes de becs différentes, et il dit bah, ils ont dû dériver d'un ancêtre commun, et après ils se sont différenciés en fonction des pressions environnementales et des régimes alimentaires qu'ils développaient sur telle ou telle île. Donc il est vraiment parti de là, mais il a largement dépassé ça, puisqu'il en a fait une sélection naturelle, qu'il a imaginé qu'il y avait un grand nombre de formes qui étaient produites, que ce grand nombre de formes était sous pression de sélection, et que certaines formes seulement allaient être sélectionnées et allaient donner finalement la diversité qu'on avait sous les yeux. Il a pensé littéralement la notion d'ancêtre commun à un ensemble de formes aujourd'hui diversifiées. Et ça... Il avait l'observation simplement de ses pinsons, mais vous voyez, il a fait quand même un très grand pas en avant au niveau théorique. Et pour moi, c'est une des plus belles expériences de pensée. Il n'a pas été tout à fait le premier à la faire, mais en tout cas, il a été le premier à la faire avec un tel succès et avec autant d'arguments, avec ce principe de sélection naturelle et d'évolution par transformation.
Alors, vous excuserez la naïveté de ma question, Bruno David, mais est-ce que la théorie de Darwin exclut que des espèces puissent faire marche arrière dans l'évolution?
C'est pas... Oui, enfin, les espèces ne font pas marche arrière dans l'évolution. L'évolution ne revient jamais en arrière, parce que là aussi, il faudrait imaginer qu'on puisse rembobiner exactement le film de la même manière et pouvoir le redérouler éventuellement.
Mais elles peuvent peut-être retrouver une propriété qu'elles avaient perdue.
Alors oui, ça bien sûr. À l'échelle d'un caractère, ça c'est tout à fait possible. Et il y a dans l'évolution, il y a différents types de mécanismes. Si on rentre dans les processus évolutifs, là on est après Darwin, si on rentre dans les processus évolutifs, en gros, il y a des tendances évolutives qui correspondent à des ajouts de caractères supplémentaires, c'est-à-dire que le descendant, en quelque sorte, il est hyper adulte par rapport à son ancêtre, il rajoute une caractéristique supplémentaire. Si je prends l'exemple des grands cerfs des tourbières d'Irlande, leurs ancêtres avec des cornes plus petites, et puis de génération en génération, les cornes sont devenues plus importantes pour des questions de combat entre les mâles et de sélection sexuelle, jusqu'à ce que ça devienne tellement imposant que ça devenait un handicap très lourd pour les individus qui les portaient.
Trop de virilité n'aide
pas. Donc là, voilà, trop de virilité, il faut se méfier de la virilité. Donc là, on voit bien qu'on ajoute des caractères supplémentaires. Mais symétriquement, on peut imaginer que le descendant soit mature à un stade juvénile de son ancêtre. C'est comme si un enfant de 5 ans était sexuellement mature avec sa morphologie d'enfant de 5 ans qui n'est pas la morphologie d'un adulte. Et donc là, il y a une forme de retour en arrière, entre guillemets, mais qui n'est jamais tout à fait le même. Mais ça a donné des choses intéressantes. Si vous me donnez 3 minutes, je
peux vous dérouler
un exemple. On est au tout début de l'ère tertiaire. Il y a 60 millions d'années, entre 60 et 65 millions d'années. On est dans un petit golfe à l'emplacement du Togo actuel. Et dans cet endroit-là vivent des oursins. J'ai passé beaucoup de temps de ma carrière à travailler sur les oursins. Dans cet endroit-là,
vous avez même écrit un petit livre sur les oursins.
Voilà. Dans cet endroit-là vivent des oursins un petit peu particuliers qui se nourrissent de sable et qui ont gardé la trace de leur mâchoire ancestrale uniquement à l'état juvénile et qui la perdent à l'état adulte. Donc normalement, il y a beaucoup d'oursins qui ont des mâchoires, qu'on appelle la lanterne d'Aristote d'ailleurs, pour revenir à Aristote. Et ces oursins l'ont perdu à l'état adulte, ils l'ont juste gardé à l'état juvénile. Et il se trouve que dans ce golfe au Togo, il y a un groupe de cette population qui devient adulte à l'état juvénile. Autrement dit, ils récupèrent la lanterne à l'état adulte. Et ça va donner toute une radiation d'oursins qui vont récupérer la lanterne et utiliser la lanterne de manière totalement différente. Cette fameuse lanterne d'Aristote, cette mâchoire. Donc là, il y a eu un retour en arrière, en quelque sorte, qui a permis de récupérer un caractère qui s'est redéveloppé ensuite, qui s'est redéployé ensuite, pour être utilisé de manière complètement différente que ce que faisaient leurs ancêtres, qui avaient aussi des mâchoires. Les ancêtres qui avaient des mâchoires, ils mangeaient des algues. Ceux qui ont perdu les mâchoires ont avalé simplement du sédiment. Et ceux qui ont récupéré les mâchoires se sont mis à croquer des grains de sable.
Donc il y a une forme de réversibilité partielle, enfin locale.
Il y a une réversibilité, éventuellement, caractère par caractère. Même si c'est jamais tout à fait le même, parce que la nouvelle lanterne ne ressemblait pas tout à fait à l'ancienne lanterne.
Alors j'ai cru comprendre, Bruno David, qu'on connaît beaucoup d'espèces. Combien d'ailleurs au total?
Alors la science a décrit à peu près 2 millions d'espèces et on estime qu'il y en a entre 10 et 15 millions sur Terre.
Et comment on peut estimer le nombre d'espèces qu'on ne connaît pas? C'est l'équivalent de la matière noire pour les physiciens.
Alors là, ça se
fait. Nous, on a des bonnes raisons. On a une équation, on a des lois et on voit ce qu'il faut ajouter comme matière pour que les lois expliquent la dynamique des galaxies. C'est ce qu'on appelle la matière noire. Mais vous, comment vous savez qu'il y a tant d'espèces qui n'ont jamais été observées?
Alors, simplement, on a aussi des modèles mathématiques, même en biologie. Hein. Et on regarde, en fonction de l'effort d'échantillonnage qui est fait chaque année, des explorations scientifiques qui sont faites à travers la planète, combien de nouvelles espèces pour la science, nouvelles pour la science, sont décrites chaque année. Donc, on a une courbe d'augmentation de cette connaissance. Et ça nous permet de construire une courbe de saturation, qu'on va appeler une courbe de saturation.
C'est d'extrapolation.
D'extrapolation. Donc on est sur une certaine courbe, et là il y a des modèles mathématiques qui nous aident à faire cela. Ça peut être fait à l'intérieur d'un écosystème ou pour la planète entière. Et donc, on voit si on est sur un endroit de la courbe qui est très pentu et qui est en augmentation forte, ou si on est en train déjà d'atteindre un certain plateau, ce qui nous permet de faire une prédiction sur le nombre total d'espèces qu'il pourrait y avoir sur la planète. C'est quelque chose, c'est une méthode qu'on utilise. Par exemple, on va faire une exploration dans un lac, on va prélever un certain nombre de prélèvements. Dans ces prélèvements, on va avoir un certain nombre d'espèces. Est-ce qu'on a vraiment toutes les espèces présentes dans le lac? Peut-être, peut-être pas. Et là, on construit ces courbes de saturation pour savoir si on est proche de la saturation.
C'est un peu comme on le fait pour mesurer le nombre de malades compte tenu du nombre de cas positifs.
C'est un peu ça.
Pour reprendre l'exemple de la pandémie.
C'est un peu ça.
Mais la chute de la biodiversité dont nous avions parlé il y a 3 minutes, elle concerne les espèces que nous connaissons. Est-ce qu'il y a de bonnes raisons de penser qu'elle concerne semblablement les espèces que nous ne connaissons pas?
Oui, il y a de bonnes raisons de penser.
Même si elles sont inconnues, donc lointaines, sans doute, et difficiles d'accès.
Alors, les espèces qu'on ne connaît pas sont plutôt des petites espèces, voire des espèces carrément microscopiques. Les gros animaux, par exemple, ou les gros végétaux, on les connaît. C'est très rare, on va pas découvrir une nouvelle espèce d'éléphant ou de rhinocéros. On sait lesquelles sont déjà présentes sur Terre aujourd'hui. Par contre, dans les petites espèces, il y a des lacunes absolument énormes, petites ou moyennement petites. Hein, ça peut être des espèces centimétriques, hein, c'est pas forcément du microscopique. Hein, il n'y a pas forcément besoin d'un microscope pour les regarder. Donc, compte tenu de la pression qu'on exerce sur ces espèces, celles qui sont connues, on sait à peu près ce qui pourrait se passer pour celles qui sont encore non décrites par la science.
Alors, dans l'histoire, on a trouvé quand même des biologistes, je ne sais pas s'il faut les appeler comme ça, mais qui ont fait des expériences de pensée, qui ont même produit des théories intéressantes. L'un qui est tout à fait fascinant et que j'ai découvert grâce à vous, qui s'appelle Benoît de Maillet, qui a vécu entre 1656 et 1738. Il a publié un livre assez incroyable, qui a d'ailleurs pour titre son nom à l'envers.
Oui.
Il s'appelait De Maillet et son livre s'appelle le Téliamède. Oui. C'est de Maillet lu dans l'autre sens. Alors, comment est-ce qu'il a procédé, lui? Il a fait beaucoup d'observations. Je crois qu'il a passé 25 ans de sa vie à faire des observations.
Oui, il a fait beaucoup de...
Il a été consul en Égypte. Oui. Il parlait l'arabe et il paraît que ça l'a aidé à...
Oui, il a pu discuter, enfin, il a pu s'imprégner de tout ça. Il a trouvé ce qu'il appelait des pierres de Syrie qui contenaient des petits poissons fossiles, en fait. Il a trouvé ce qu'on appelait des cornes d'Amon, qui sont les ammonites, ces céphalopodes enroulés sur eux-mêmes. Fossiles, bien sûr. Et il a été frappé par il a fait l'observation qu'il y avait quand même des animaux marins qui se trouvaient au sommet des montagnes.
Pas des fossiles.
Des fossiles, oui.
Pas les animaux eux-mêmes.
Non, pas les animaux. Enfin, des fossiles d'animaux marins.
Parce que j'en ai jamais vu.
Oui, j'ai fait un raccourci. En tant que paléontologue, j'ai fait un petit raccourci. Bon,
heureusement que je suis là.
Oui, heureusement. Hein, pour me rappeler à la réalité. Donc, des fossiles d'animaux marins qui étaient dans des montagnes. C'était pas la première fois qu'on observait ça, mais on avait mis ça un petit peu sur le compte du déluge. On avait dit, bon, bah, il y a eu le déluge, il y avait Noé dans son arche. Et donc, il y a des animaux marins qui se sont promenés partout. Alors, lui, il a considéré que c'était un petit peu différent. Il a dit, oui, d'accord, c'était peut-être le déluge, mais peut-être pas. Mais en tout cas, la Terre se rapproche du Soleil. Il a fait cette hypothèse, expérience de pensée, curieuse. La Terre se rapproche du Soleil et par conséquent, ça chauffe de plus en plus et les océans s'évaporent. Alors, bon. C'était une expérience, enfin c'était une vision comme une autre. Et donc les espèces se sont retrouvées hors de l'eau. Et au lieu de rester tranquillement dans l'océan en suivant le retrait de l'océan, elles se sont habituées à la vie terrestre.
La Terre a été autrefois complètement couverte d'eau.
Sans doute. En tout cas, au moment du déluge, elle l'a été très largement, sauf au sommet du mont Ararat. Mais bon, donc il a fait cette expérience. Donc il a dit, attention, les espèces se sont transformées. Les espèces se sont transformées. C'est inadmissible. Cela voudrait-il dire que Dieu n'a pas fait une création parfaite et que les espèces ont pu évoluer par elles-mêmes? Donc, voyez le problème. Donc, il n'a pas osé publier son livre de son vivant. Il y a eu des copies manuscrites qui ont circulé pratiquement une vingtaine d'années avant sa mort. Et puis, le livre a été imprimé post-mortem, sans même que son nom soit notifié sur le livre. Et il a eu un très, très grand succès. Il y a des gens qui s'en sont emparés, il y a des gens qui l'ont beaucoup critiqué. Hein,
moqué,
oui, il a été très moqué. Voltaire, notamment.
Voltaire, il est d'une férocité.
Il est extrêmement féroce avec lui. Il raille abondamment ce philosophe Téliamède pour avoir soutenu que la mer avait été partout pendant 5 ou 600 000 siècles, parce qu'il osait la durée. Bien sûr, pour évaporer cet océan, il fallait du temps. Donc, il rajoutait de l'hérésie à l'hérésie, en quelque sorte. Hein. Et Voltaire rajoute, et il disait que nos basses-cours sont peuplées de poissons volants, devenus à la longue canards et poules, et qu'on a trouvé un brochet pétrifié au milieu d'un pays. Donc c'est vraiment quelle déraison de cet auteur de faire sortir l'homme du fond de la mer et de peur que nous descendions d'Anan, de nous donner des monstres marins pour aïeux. Ça c'était De Zayer d'Argenville qui le disait à propos du Téliamède, de ce livre posthume.
D'ailleurs, il a dédié son livre à Cyrano de Bergerac et il ajoute que « puis-je choisir un plus digne protecteur de toutes les folies qu'il renferme ». Donc c'est une façon de dire qu'il ne faut pas trop le prendre au sérieux puisque ce qu'il raconte relève du délire.
C'était une façon de se protéger de l'Église et d'éviter le bûcher trop rapidement. Donc en disant « oui, mais c'est une plaisanterie », mais ceci dit, dans son esprit, ce n'était pas du tout une plaisanterie.
Hein. Il est le premier à introduire l'idée de métamorphose des espèces ?
Il est parmi, en tout cas, les premiers à introduire cette idée de métamorphose, ce qu'on appelle le transformisme.
Donc c'est l'évaporation des océans qui a fait que les espèces marines se sont trouvées à l'air, ont dû s'adapter.
Et se sont donc transformées.
Se sont transformées pour s'adapter.
Ça veut dire ont évolué, en français moderne. Ça veut dire ont évolué. Donc on voit bien la révolution qu'il introduisait. Ça voulait dire qu'il questionnait sur le rôle de Dieu. Et questionner le rôle de Dieu, c'est quoi? Ça revient à abaisser ce Dieu en question. Parce qu'il disait qu'en gros, le Dieu avait donné naissance à une sorte de soupe informe, un magma de matière, et quand Dieu a introduit les lois de la physique, donc les vôtres, mon cher Étienne, et il a mis en marche tout ce bazar, mais après, il a laissé les choses se faire.
Mais quand il parle des espèces, il inclut l'homme, qui serait lui aussi sorti de l'océan?
Alors ça, c'est pas précisé. Mais l'homme est une espèce terrestre. Donc, moi, en lisant cela, je suppose qu'effectivement, l'homme était aussi né d'une transformation, d'une espèce marine. C'est bien pour ça que Voltaire disait qu'il voulait nous donner des monstres marins pour aïeux.
Il n'y a que des impies qui puissent inventer de pareilles rêveries.
Oui.
Dans l'idée de rêverie, il y a presque l'expérience de pensée. Hein,
oui, mais on n'est pas très loin de ça, parce que vous voyez à quel point il allait loin à partir de quelques observations qui étaient simplement, bon, bah, il y a des fossiles d'animaux marins qui se trouvent au sommet des montagnes, et à partir de là, il a fait toute une théorie jusqu'à remettre en cause le rôle de Dieu et le fait que Dieu aurait pu tout régler par avance et laisser les choses se dérouler d'elles-mêmes. Donc c'est le concept même de Dieu qui se trouve transfiguré. Et après, il y avait un temps très long également. Il a laissé du temps au temps, comme a dit un de nos présidents de la République célèbre.
Ou même l'Ecclésiaste.
Et donc, le Créateur va se trouver un petit peu décalé par rapport à nos vies. Et ça veut dire aussi que, finalement... Il n'y a pas vraiment de destin, il n'y a pas de rémission possible, les dés roulent depuis le début avec un dieu qui se désintéresse de sa création.
Qui laisse aller.
Donc c'était une expérience de pensée qu'il avait conduit assez loin.
Alors Bruno, David, vous connaissez aussi très bien le cas de Denis Diderot, l'un des encyclopédistes qui a lui aussi fait une théorie de la nature. Il a publié en 1754 un livre intitulé Pensée sur l'interprétation de la nature, dans lequel il manipule ce que vous appelez aujourd'hui, mais à l'époque on parlait autrement, ce que vous appelez aujourd'hui le concept d'homologie par ascendance entre organes. Mais qu'est-ce donc ?
Alors le concept d'homologie, on va prendre ma main et la vôtre, et on va considérer qu'elles sont homologues. Pourquoi va-t-on dire qu'elles sont homologues ? Parce qu'elles sont construites de la même manière. Et puis après, si on prend la patte d'un chevreuil, on peut dire oui, c'est homologue de notre main, mais quand même, c'est pas tout à fait pareil. On sera bien d'accord pour dire que c'est pas tout à fait pareil. Et en même temps, on sera d'accord pour dire que c'est homologue, parce que finalement, le membre antérieur du chevreuil, on voit bien qu'il est construit à peu près avec les mêmes os que notre membre antérieur. Donc on pousse l'homologie. Après, est-ce qu'on va prendre la patte d'un insecte ? Tiens, pourquoi pas ? Après tout, il y a trois parties, ça pourrait être aussi homologue. De notre
Donc on invoque une sorte de principe de continuité.
Il y a un principe de continuité, mais là je vous emmène sur une fausse piste. Je vous emmène sur une fausse piste parce que je construis une homologie à partir de ressemblances anatomiques et de similitudes anatomiques. En fait, la vraie nature de l'homologie, c'est des choses qui sont héritées d'un ancêtre commun et qui sont construites de la même manière du fait de cet ancêtre commun. On a hérité d'un ancêtre une manière de faire une patte. Et cet ancêtre commun, il va exister entre le chevreuil et nous, donc l'homologie entre la patte de chevreuil et notre patte antérieure, notre membre antérieur est correcte. Par contre, il n'existe pas entre l'insecte et nous, en tout cas, il n'y a pas un ancêtre commun ayant des pattes qui soit partagé par les vertébrés et les arthropodes. Et par conséquent, l'homologie, là, elle est fausse, elle est superficielle.
Donc ça, c'est la façon moderne de dire.
C'est la façon moderne de dire.
Comment est-ce que Diderot est arrivé aux prémices de cette idée ?
Alors, il est arrivé aux prémices de cette idée en comparant des mammifères entre eux. Donc, en fait, il avait raison. C'était une vraie homologie qu'il décrivait. Hein. Et il disait, quand on considère le règne animal et qu'on s'aperçoit que parmi les quadrupèdes, il n'y en a pas un qui n'ait les fonctions et les parties, surtout intérieures, entièrement semblables à un autre quadrupède, donc il disséquait ces quadrupèdes, ne croirait-on pas volontiers qu'il n'y a jamais eu qu'un premier animal, prototype de tous les animaux, donc il a la notion d'ancêtre commun, dont la nature n'a fait qu'allonger, raccourcir, transformer, multiplier, oblitérer certains organes. Et il prend un exemple, il reprend justement l'exemple de la main. Imaginez les doigts de la main réunis et la matière des ongles si abondante que venant à s'étendre et à se gonfler, elle enveloppe et couvre le tout. Au lieu de la main d'un homme, vous aurez le pied d'un cheval. Il a raison sur le plan de cette homologie. Il le fait via l'anatomie. Maintenant, nous le faisons via l'ancêtre commun et l'analyse du développement, la génétique du développement qui montre que c'est vraiment construit de la même manière. Donc, on va au-delà de cette ressemblance superficielle, mais en l'occurrence, sur la comparaison entre notre main et la patte d'un cheval, il n'a pas tort.
Oui, mais ce qu'il écrit là, c'est quelques années seulement après le livre de Benoît de Maillet dont on a parlé. Or, c'est aussi une théorie de l'évolution.
C'est aussi une théorie de l'évolution.
Comment est-ce qu'elle a été reçue ? Parce que quelle est la part qu'elle donne au rôle de Dieu dans cette histoire ?
Alors, je ne sais pas ce que Diderot mettait derrière.
Il y a une évolution, déjà, ça c'est...
Mais en tout cas, il y a une notion d'évolution, ça c'est flagrant. Hein. C'est flagrant. Et on va trouver beaucoup dans le domaine de l'évolution. On a commencé par Darwin, puis maintenant on remonte un peu en arrière avec des précurseurs. Mais on voit très très bien que cette notion de transformisme, c'est par nature même une forme d'expérience de pensée. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas, le temps de l'expérimental, on n'a pas le temps de l'observation. La transformation d'une espèce en une autre, surtout chez des animaux un petit peu importants, enfin qui ont un certain volume, qui ne soient pas des choses microscopiques, sauf exception, l'émergence d'une espèce, ça prend entre 10 et 100 000 ans. Donc on n'a pas le temps de l'observation, on n'a pas encore moins le temps de l'expérience, donc on ne sait pas, surtout à cette époque, et on fait des hypothèses. On fait des hypothèses qui sont des formes d'expérience de pensée. Maintenant, on est capable de voir ça en manipulant des lignées de bactéries ou d'éventuellement même des drosophiles et des petites mouches qui se reproduisent plus rapidement. Mais à l'époque, on ne savait pas faire cela. Donc on s'appuyait sur les gros animaux qu'on avait sous les yeux.
Bruno David, il y a un physicien, enfin il y a un personnage de l'histoire bien connu des physiciens qui s'appelle Pierre-Louis Moreau de Maupertuis, qui est célèbre pour avoir inventé un principe dit de moindre action. Il est célèbre aussi pour avoir monté une expédition en Laponie qui a montré que la Terre était aplatie au pôle. Moi, je crois qu'il avait fait que de la physique, mais en vous lisant, je découvre qu'il s'est intéressé aussi à l'évolution. Alors, quand il a fait de la physique, il a expliqué ses résultats dans un livre publié en 1750 qui s'appelle « Essai de cosmologie », que je n'ai pas lu en entier. Et en vous lisant, j'ai vu qu'il me manquait des parts importantes. Mais quand il parle de physique, il dit ceci. « J'ai découvert un principe métaphysique sur lequel toutes les lois du mouvement et du repos sont fondées. J'ai fait voir la conformité de ce principe avec la puissance et la sagesse du Créateur et de l'ordonnateur des choses. Ce principe est que dans toutes les distributions de mouvements qui se font dans la nature, la quantité d'action était toujours la plus petite qu'il est possible. » Fin de citation. C'est l'idée que la nature, en somme, serait, sinon paresseuse, du moins maximalement économe de ses efforts lorsqu'il s'agit de propager de la lumière ou de déplacer des objets. Et quand il s'intéresse à l'évolution des productions de la nature, comme il les appelle, il dit quelque chose qui me semble en contradiction avec ses théories physiques.
Largement en contradiction. Oui, largement en contradiction. Parce que pour lui, c'est comme si le hasard dans la diversité du vivant, il constate que les formes qui existent, elles sont en gros bien adaptées. Il utilise le mot convenance, mais ça veut dire adaptation hein, dans son esprit. Et il dit, c'est comme si le hasard avait produit une multitude innombrable d'individus, et qu'il y avait simplement un petit nombre qui pouvait survivre, qui avait survécu.
Donc nous sommes les rescapés d'un génocide invisible.
On est les rescapés d'un immense cimetière. L'évolution biologique, c'est un immense cimetière. Et c'est bien la conception qu'on en a aujourd'hui d'ailleurs. Mmh. Et donc, il n'y a pas d'ordre, les autres ont péri. Et finalement, les seuls qui soient restés, il écrit cela, sont ceux où se trouvaient l'ordre et la convenance, donc l'adaptation. Et ces espèces que nous voyons aujourd'hui ne sont que la plus petite partie de ce qu'un destin aveugle avait produit.
Donc on est vraiment contradictoire avec le principe d'action qui est presque un principe finaliste.
Et ça veut dire que l'ordre qu'on a sous les yeux, ou l'ordre apparent qu'on a l'impression de voir quand on regarde le vivant, ça provient d'un désordre fortuit, le hasard, et qu'il n'y a pas de finalité, il n'y a pas de destin. Il s'écarte évidemment totalement d'une croyance divine et il anticipe beaucoup ce que dira Darwin sur la sélection naturelle.
Oui, parce qu'il fait jouer un rôle prédominant au hasard, déjà.
Oui.
Un hasard qui n'est pas un destin caché, mais un hasard pur.
C'est un hasard pur, c'est que simplement il y a énormément de formes qui sont produites, qui sont différentes les unes des autres, et que parmi toutes ces formes produites, c'est une multitude de formes produites, seulement certaines sont adaptées, et finalement ont un avenir, et survivent, et donnent naissance à d'autres formes qui leur ressemblent, et puis qui finissent par ne plus leur ressembler, parce que la géographie terrestre au sens large changeant, la contingence intervenant fait que ce qui est adapté à un moment ne l'est plus à un autre et que c'est comme ça que la vie a passé son temps à changer.
Alors Bruno David, l'histoire de la physique, vous le savez bien, elle est parsemée de controverses, parfois amicales. Par exemple, entre Einstein et Bohr sur la bonne interprétation de la mécanique quantique. Dans votre domaine, les sciences naturelles, est-ce qu'il y a eu aussi, j'imagine, des controverses, pas forcément amicales d'ailleurs?
Oui, il y a eu des controverses.
Notamment celles entre Georges Cuvier et Étienne Geoffroy Saint-Hilaire, que vous connaissez bien, dans les années 1830, c'est ça?
1830, oui. Cuvier va mourir en 1832 du choléra, mais avant de mourir du choléra...
C'est fâché.
Il s'est beaucoup fâché avec Geoffroy Saint-Hilaire. Cuvier était quelqu'un qui était très autoritaire. Aujourd'hui, on dirait un mâle dominant. Geoffroy Saint-Hilaire avait peut-être un caractère, avait aussi du caractère quand même. Et ils se sont farouchement opposés, alors qu'ils étaient tous les deux anatomistes au muséum. Et ils se haïssaient cordialement l'un l'autre.
Et mais il se haïssait parce qu'il n'était pas d'accord ou il n'était pas d'accord parce qu'il se haïssait?
J'espère que c'est parti du fait qu'ils n'étaient pas d'accord.
Mais ça a une résonance publique d'ailleurs cette histoire, non?
Bien sûr, ça c'était dans les journaux. Fait les grands titres des journaux. Enfin, ça a été une controverse et une bataille.
Qui a duré combien de temps?
Qui a duré deux ans. Qui a duré deux ans, jusqu'à la mort de Cuvier. Puis Geoffroy Saint-Hilaire est devenu aveugle, donc il a été affaibli. Donc en fait, ça s'est pratiquement arrêté après la mort de Cuvier. Faute de combattants. Et en fait, c'était une controverse qui était très, très bien étayée au point de vue du raisonnement. Cuvier disait, dans le monde vivant, il y a des catégories. Il y a des vertébrés, il y a des arthropodes, donc les crustacés, il y a des mollusques, il y a des vers, et tout ça correspond à des cases assez différentes qui sont étanches, donc des boîtes qui sont étanches, et il n'y a pas de transition entre une boîte et une autre. Et effectivement, quand on regarde autour de nous dans la nature, on voit pas bien la transition entre un cheval et une étoile de mer. Donc ils mettaient tout ça dans des boîtes étanches, et en disant... Il y a des plans d'organisation, et derrière ces plans d'organisation, on ne peut pas sortir de la boîte. Ce n'est pas possible. Geoffroy Saint-Hilaire avait une vision plus intégrative du vivant. Il essayait de comprendre le vivant dans son ensemble.
Une sorte d'unité fondamentale derrière toutes les apparences.
Voilà. Donc il essayait de voir qu'est-ce qui pourrait exister comme similitude ou comme ressemblance même lointaine entre des organismes que Cuvier mettait dans des boîtes différentes. Et ce qui lui a mis la puce à l'oreille, c'est que chez les vertébrés et d'autres organismes apparentés, notre système nerveux, il est dorsal. Si vous prenez un chien, vous regardez un chien, sa colonne vertébrale, elle est sur son dos. Et son cœur, il est ventral. Si vous prenez une langouste, son système nerveux axial, il est ventral et son cœur, il est dorsal.
Mais il suffit de retourner.
Donc, il a retourné la langouste et a dit, un chat, c'est une langouste retournée. Et il a fait un magnifique dessin où il a pris un poulpe, une pieuvre, et il a pris un canard, il a plié le canard, dans le dessin, hein, bien sûr, pour lui faire mettre les organes là où sont ceux de la pieuvre.
Bon, je vois le schéma sous vos
yeux. Voilà, j'ai apporté le schéma, et c'est intéressant parce qu'on voit ce canard avec
c'est
le digestif qui fait une courbe un peu bizarre. Et quand il a dit un chat, c'est une langouste retournée, bon, les gens ont hurlé. Et Cuvier en premier en disant, mais comment c'est possible? Comment peut-on émettre des théories aussi stupides? Ça n'est pas pensable. Et le pauvre Geoffroy Saint-Hilaire s'est fait massacrer. Hein. Il s'est fait massacrer par Cuvier avec toute l'autorité qu'avait le grand Cuvier, le grand Georges Cuvier. La presse s'en est mêlée. Enfin, tout ça se passait dans des débats houleux à l'Académie des sciences. Enfin, il faut
voir. Oui, ils étaient tous les deux membres de l'Académie.
Ils étaient tous les deux membres de l'Académie, tous les deux professeurs au muséum. Hein, donc, ils se voyaient tous les jours. Hein. Vous imaginez l'ambiance. Hein. Enfin, et après, il a fallu attendre. Donc, tout ça a été une querelle qui a été enterrée.
Juste une question, est-ce qu'il y avait un moyen à l'époque de les départager? Scientifiquement, je veux dire.
Non, je pense que Cuvier avait raison à l'époque.
Mais trop tôt.
Non, c'est l'inverse. Cuvier avait raison à l'époque.
Ah oui.
Et Geoffroy Saint-Hilaire avait fondamentalement raison. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais à son époque, il avait tort d'avoir raison, en quelque sorte. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Il faut attendre vraiment la fin du XXe siècle. Donc bien longtemps après. On attend plus de 150 ans plus tard. Et là, on découvre des gènes particuliers qui ont une fonction particulière dans le développement des organismes. Et que ce sont des gènes qui permettent à un organisme de définir ce qu'on appelle sa polarité antéro-postérieure, c'est-à-dire où est l'avant, où est la tête, où est la queue chez un organisme. Et on découvre ces gènes. On découvre ces gènes en premier lieu chez la mouche, chez une drosophile. On est... fasciné par ça, parce que les gènes, ils ont un certain ordre sur le chromosome, ils s'activent dans cet ordre-là, et séquentiellement, ils s'expriment de l'avant vers l'arrière sur la bestiole. C'est incroyable, on a des gènes architectes qui nous construisent une mouche. Et qu'est-ce qu'on fait? On va regarder chez d'autres animaux, et on regarde chez la souris blanche. Donc, nous, mammifères.
Comment ça, nous?
Mammifères. Presque nous, mais c'est
pas trop
comme
vite.
Si c'était nous. Et on trouve les mêmes. Les mêmes gènes. Sauf que chez la mouche drosophile, le système nerveux bien se mettre au niveau ventral. Chez la souris blanche, ça va se mettre au niveau dorsal. Donc, Geoffroy Saint-Hilaire avait raison. Et la polarité dorso-ventrale est inversée entre les vertébrés et les invertébrés.
Donc, est-ce qu'on peut dire que ça démontre qu'il y a une sorte d'unité fondamentale entre les vivants?
Ça démontre une unité fondamentale entre les vivants parce que ces gènes, on est allé les chercher chez beaucoup d'organismes et on les a retrouvés jusque chez les éponges. chez les oursins, les étoiles de mer, les vers.
Alors, qu'est-ce qui sous-tend cette unité? C'est quoi? C'est le code génétique?
C'est une origine commune. C'est un ancêtre commun chez lequel ces gènes très fondamentaux, qui sont les gènes qui vont intervenir vraiment pour la construction de ce qu'est même un animal, hein, puisqu'on est chez les animaux, on n'est pas chez les plantes. C'est vraiment la construction fondamentale d'un animal. C'est le plan...
Quel qu'il soit.
Et après, ils vont être utilisés de différentes manières. Mais si vous voulez, vous avez les mêmes chefs d'orchestre, et puis ils peuvent jouer différentes musiques. Mais globalement, quand même, ils jouent toujours de la musique. Et la musique, c'est l'organisation de la bestiole en question.
Je ne l'ai pas dit, enfin si, je l'ai dit au tout début, Bruno David, mais vous avez une formation de géologue, je crois.
Oui.
Alors en quoi est-ce que la théorie de Wegener en 1912, qui va se confirmer grâce à la compréhension de ce qu'on appelle la tectonique des plaques, relève de l'expérience de pensée?
Alors ça peut relever, on peut considérer que ça relève pour partie de l'expérience de pensée, puisque Wegener va observer la forme des continents, et en particulier la forme de l'Amérique du Sud par rapport à celle de l'Afrique. Et il va dire, mais finalement la bosse du Brésil va peut-être, on a l'impression qu'elle pourrait s'emboîter dans le golfe de Guinée. Et à partir de là, compte tenu du fait qu'on commence aussi à avoir des connaissances sur des fossiles qu'on va trouver en Afrique d'un côté, en Amérique du Sud de l'autre, et qu'on voit certaines similitudes, il dit bah, ça veut dire que les continents ont bougé. Alors vous imaginez, on est avant la Première Guerre mondiale, dire que les continents ont bougé, c'est totalement aberrant. Enfin, comment aller avoir été chercher une idée aussi baroque que de dire que les continents bougent? On voit bien qu'ils ne bougent pas, qu'ils n'ont jamais bougé. Et on invente, pour expliquer certaines similitudes de faune, des ponts continentaux. On imagine des ponts à travers l'Atlantique, à partir desquels les faunes auraient pu circuler d'une rive à l'autre de l'Atlantique, par exemple. Ce qui était une idée largement aussi baroque que celle de Wegener, d'ailleurs. Et puis arrivent les années 1970, et là, on a des plongées au centre de l'Atlantique avec un sous-marin qui s'appelle l'Alvin. Les Américains plongent, on découvre comment fonctionne la ride médio-océanique, et c'est le début de la découverte de la tectonique des plaques. On a compris qu'on est sur un certain nombre de plaques, la Terre est pavée d'à peu près 7 grandes plaques, il y a 7 plaques principales aujourd'hui, et que ces plaques, elles ont passé leur temps à bouger les unes par rapport aux autres. Et là, c'est une découverte absolument fabuleuse qui nous permet de reconstituer toute la paléogéographie du globe depuis pratiquement l'origine de la Terre. Et là, on se rend compte qu'il y avait une quarantaine ou une cinquantaine de plaques il y a un milliard d'années, et puis que ce nombre de plaques a diminué jusqu'à ce qu'on ait ces 7 plaques fondamentales aujourd'hui. Donc là aussi, Wegener avait raison. Mais il a eu raison, là aussi, un tout petit peu trop tôt. Il a été très très critiqué au départ, évidemment, parce que ça paraissait totalement incongru que les continents puissent bouger. Il a été récupéré par l'Allemagne nazie, parce que comme c'était un Allemand, les Allemands ont dit « mais c'est formidable cette théorie, c'est un Allemand, il faut défendre cette théorie », ce qui était assez, assez curieux.
Enfin, ils n'ont pas fait la même chose pour Einstein. Hein.
Non, enfin, c'est à l'insu de Wegener d'ailleurs. Et puis arrive la tectonique des plaques, qui l'a dit « bah finalement oui, c'est comme ça que ça a fonctionné ». Et maintenant, on a tout compris, enfin tout s'emboîte. Mais à chaque fois, il faut qu'il y ait une nouvelle découverte derrière pour valider une idée bizarre qui a pu être émise longtemps avant.
Bon, vous connaissez, Bruno David, les travaux de Karl Popper, qui dit que la science se construit sur le fait qu'elle s'engage dans des prédictions qui permettent, si ces prédictions ne sont pas vérifiées par l'observation, eh bien d'être démenties par le réel, en quelque sorte. Est-ce que chez vous, c'est possible que vous découvriez une espèce qui provoque un tremblement conceptuel dans la façon dont vous pensez l'évolution, qui vous surprenne tellement qu'elle remet en cause des choses qui paraissaient acquises?
Alors sur le plan théorique, oui, c'est possible. On peut trouver une espèce qui vous chamboule. Qui va vraiment chambouler les choses. Ça arrive, ou simplement un fossile un peu original, un peu bizarre, qui va dire, mais finalement, on ne pensait pas que ça s'était passé comme ça, et ça s'est passé comme ça. Hein. Mais pour revenir à Coppens, on trouve Lucie, et ça change notre regard sur l'évolution humaine. Un peu plus tard, Michel Brunet va trouver Toumaï, et ça va changer notre regard encore plus sur l'évolution humaine. Donc on voit bien qu'un élément, une découverte, va éventuellement bouleverser les choses. Ça a été un peu la même chose avec ce fameux Papinia et sa trompe qui a bouleversé notre vision qu'on pouvait avoir des faunes très anciennes de cette époque. On a trouvé d'autres bêtes autour de lui et on s'est rendu compte qu'il y a eu une époque où ont vécu des êtres vraiment très 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 étranges. Et là, c'est la découverte de quelques fossiles qui nous permettent de, bah, de rebattre les cartes et de se dire « mais non, finalement, c'est pas comme ça que ça s'est passé, c'est sans doute autrement que ça s'est passé ». Parce que la documentation, notamment dans le fossile, c'est un gruyère. Hein, c'est comme si on avait un film avec seulement quelques images qui seraient restées. Il faut qu'on arrive à partir de ça, de raconter l'histoire. Donc on voit très bien que s'il manque une scène essentielle, avant qu'on la découvre en tout cas, bah, on peut se tromper d'histoire.
Mais quelles sont les questions qui vous taraudent ? Est-ce qu'il y a une question concernant l'évolution dont vous ne connaissez pas la réponse et dont vous aimeriez qu'elle vous soit donnée avant votre propre mort ?
Alors, je vais être un peu plus hypocrite. Je vais raconter qu'il y a une question qui m'a beaucoup taraudé pendant ma vie de chercheur et à laquelle j'ai essayé de répondre. Et je pense qu'on est, avec un collègue américain de San Francisco, on est pratiquement arrivé à répondre à cette question. Pour revenir à ce que je disais tout à l'heure sur la polarité antéro-postérieure, où est la tête et où est la queue, on s'est beaucoup posé la question d'où était la tête et où était la queue chez une étoile de mer et chez les formes apparentées.
Oui, il n'y a que vous pour vous poser ce genre de questions.
Voilà, vous voyez, des gens curieux. Et partant simplement du constat que, alors pour le coup, l'analyse de l'évolution et les connaissances, et la personne les remet en cause, nous disent que les oursins et les étoiles de mer ne sont pas très éloignés des vertébrés, donc de nous en quelque sorte. Et c'est pas très éloigné dans l'arbre du vivant, et pourtant il n'y a pas de tête, il n'y a pas de queue, alors que les sauterelles, où on sait très bien où est la tête et où est la queue, ou même un ver, où on sait bien où est la tête et où est la queue, sont bien plus éloignés de nous dans l'arbre du vivant. Donc il y a une forme de paradoxe. Mm-hmm. Et c'était un paradoxe tel qu'il y a eu un certain nombre de très grands scientifiques dans le passé qui mettaient les oursins, les étoiles de mer, avec les méduses, dans un groupe d'animaux, dans une boîte, qu'ils appelaient les radiaires, les animaux rayonnés. Donc on s'est posé cette question, on a essayé de répondre à cette question, on y a répondu en allant chercher des très vieux fossiles, en allant regarder ce qui se passait chez des jeunes larves, en rajoutant une couche de génétique du développement là-dedans, dans la recette de cuisine, en ajoutant les fameux gènes dont je vous parlais tout à l'heure qui permettent de déterminer cette polarité antéro-postérieure, l'avant et l'arrière. On a mélangé tout ça et ça nous a permis de savoir où était la tête, où était la queue chez une étoile de mer et chez un oursin et où étaient les limites entre un compartiment antérieur, un compartiment médian et un compartiment postérieur dans ces animaux qui nous paraissent très très bizarres.
Donc vous les avez sortis de la boîte ?
On les a sortis de la boîte.
Bravo. Alors j'ai une autre question, peut-être la dernière, parce que le temps passe, Bruno David. En physique, il y a un article qui a été publié en 2008 par un monsieur qui s'appelle Chris Anderson, dans lequel il prédit que la méthode scientifique va devenir obsolète, puisque le déluge de données, comme il le dit, va permettre au réel de parler plus qu'il ne parle grâce aux théories. On aura des données qui seront analysées par des algorithmes et ça va obliger la science à changer de visage. Il n'y aura plus besoin d'énoncer d'hypothèses. Il suffira d'interpréter convenablement les données qui nous seront livrées. Donc en physique, c'est une chose qui est largement débattue, qui change d'ailleurs la façon de pratiquer la physique. Dans les grands détecteurs de particules, c'est des réseaux de neurones, par exemple, qui interprètent les données. Est-ce que chez vous, le big data et l'IA commencent à jouer un rôle ?
Oui, alors ils jouent un rôle. On a accès à des quantités d'informations auxquelles on n'aurait pas pu rêver il y a encore quelques années, qui nous permettent de répondre à certaines questions. Je vais prendre un seul exemple qui est la métagénomique, c'est-à-dire qu'on va prendre un échantillon de sol, par exemple, et on fait une analyse génétique, un balayage génétique de tout ce que contient cet échantillon de sol, et on est capable de dire, à l'intérieur de cet échantillon, j'ai 1000 espèces de micro-organismes différentes dans ce gramme de sol. Donc là, ça permet des avancées sur de la connaissance factuelle très importante. Mais ça amène pas des changements de paradigme. Ça va simplement nous donner des outils supplémentaires pour mieux comprendre comment fonctionne le vivant à certains moments. Mais ce n'est pas l'empilement des données qui va faire qu'on va modifier un paradigme, qu'on va changer notre manière de voir. Stephen Jay Gould, pour revenir à lui, a écrit un très bel article en 1981 où justement il expliquait que dans le domaine de la paléobiologie...
Je l'ai sous les yeux.
Ce n'était pas les lois en quelque sorte, les règles, les nouvelles théories émergeaient généralement plus d'idées que de l'accumulation de données. Qu'accumuler des données était certes nécessaire, parce que dans le domaine de l'histoire naturelle, on ne peut rien faire sans ces données. C'est certes nécessaire, mais ça n'est pas suffisant si on veut vraiment franchir un cap et avancer.
Ça, c'est un point commun avec la physique.
C'est un point commun avec
la physique. Parce que quand Einstein a écrit les équations de la relativité générale en 1915, on savait très peu de choses sur l'univers. D'abord, on ne savait pas qu'il existe d'autres galaxies. On ne savait pas que l'univers était en expansion, on ne savait pas d'où viennent les étoiles brillent, etc. Il a écrit des équations qui ont résisté ensuite à toutes les données qu'on a pu obtenir après coup, par des satellites, par des télescopes. On a même pu prédire des objets nouveau grâce à ces équations, je pense aux trous noirs, aux ondes gravitationnelles. Mais si on donnait toutes ces données à un algorithme sans qu'il ait les équations d'Einstein, il y a très peu de chances qu'il puisse retrouver par lui-même les équations en question.
Mais c'est un petit peu la même chose avec Darwin. Je veux dire, Darwin a émis une théorie, une forme d'expérience de pensée, c'est-à-dire qu'il est allé bien au-delà de ce que l'observation lui laissait sous la dent à ce moment-là. Et ça, ça a été conforté par les découvertes de la génétique, par la génétique du développement, par les découvertes subséquentes de paléontologie, par la tectonique des plaques même, enfin par toute une série d'autres champs disciplinaires qui sont venus conforter la vision de Darwin, qui fait que l'évolution biologique, c'est plus une théorie, c'est un fait. C'est acté. Donc on voit là aussi que c'est un petit peu du même domaine. Et accumuler de nouvelles données, bon, ça va venir conforter ça. Mais si jamais il y avait des progrès à faire dans telle ou telle direction, je ne pense pas d'ailleurs spécialement à l'évolution biologique, ça ne viendrait pas que de l'accumulation de données. Il faut des données, c'est nécessaire, mais l'accumulation de données n'a jamais fait naître une idée absolument géniale dans le domaine de la biologie, en tout cas.
Bruno David, j'ai sous les yeux et même dans la main un livre intitulé « Le monde vivant ». Signé par vous-même et par Guillaume Lecointre, coédition Grasset France Culture. De quoi s'agit-il ?
Alors ce sont exactement la moitié des 220 chroniques que j'ai produites sur France Culture.
110 ?
Il y en a 110 dans le livre. La moitié de ces 220 chroniques produites sur France Culture est diffusée entre septembre, fin août même 2020 et juin 2021. Et c'était vraiment des petites chroniques, des petites histoires qui racontent des relations entre culture et nature. On prend une espèce et puis on part autour de cette espèce sur qu'est-ce qu'elle représente biologiquement et puis qu'est-ce qu'elle représente culturellement, que ce soit pour notre pharmacopée, pour des légendes, pour l'usage alimentaire qu'on peut en avoir, pour la relation qu'on peut avoir si c'est une espèce domestique. Et on raconte toutes ces petites histoires d'espèces assez différentes les unes des autres. Il y a des végétaux, il y a des animaux, il y a des espèces domestiques, il y a des espèces sauvages, il y a des espèces que tout le monde connaît bien, il y a des espèces que personne ne connaît ou presque. Et on s'est beaucoup amusé avec ça, des petites chroniques de 3 minutes.
Il y a des titres qui laissent songeurs. Hein.
Ah, peut-être,
par exemple,
oui.
L'oursin mou, sous-titre, un béret des profondeurs.
Oui. Alors, je vais revenir aux oursins, parce qu'en fait, il faut savoir que le squelette d'un oursin, quand on voit l'oursin sur lequel on se pique les pieds, si on enlève les piquants, on voit qu'il y a une sorte de coque, de boîte, si je peux me permettre cette expression, pas très scientifique, il y a une sorte de boîte qui est assez rigide, qui est même très rigide. Mais cette boîte, si on la regarde en détail, elle est faite de calcite, donc un matériel rigide, mais elle est aussi faite de collagène. Et de collagène, c'est ce qu'on a dans notre peau, c'est quelque chose de souple. Et chez certains oursins, il y a... Le rapport entre la calcite et le collagène est différent. Il y a un peu plus de collagène, ce qui fait qu'il y a une flexibilité des plaques les unes par rapport aux autres. C'est comme si elles étaient montées sur quelque chose de souple. Et ces oursins, il se trouve qu'ils vivent dans grande profondeur, qu'ils ont la taille d'une grosse assiette, pour certains. Alors quand ils sont dans l'eau, ils sont bombés, hein, ils ont une forme de dôme. Parce que quand on les sort de l'eau, si on va les pêcher, on va les sortir de l'eau, ils vont s'aplatir. Donc on aura une grosse assiette, tout aplatie, c'est violet foncé, ça ressemble à un béret. Et comme on les trouve dans le golfe de Gascogne, on appelle ça des bérets basques.
Merci Bruno David. On ne peut pas terminer cette émission sans dire une anagramme qui a été trouvée par Olivier Garcia qui répond un peu à la question posée aujourd'hui. L'anagramme de les données pertinentes. Les données pertinentes, ça donne détiennent les réponses. Les données pertinentes détiennent les réponses. Merci Bruno David d'être venu pour cette dernière émission de La Science en Question. Est-ce qu'on vous retrouve cet été pour puisque vous faisiez la chronique Le Pourquoi du Comment après notre émission ?
Oui, pendant l'été, il y aura rediffusion de 8 chroniques du Pourquoi du Comment Science.
Et après les rediffusions de Science en Question le samedi à 16h.
Voilà.
Et donc vous à 16h45.
Voilà.
Merci à vous, c'était Science en Question par Étienne Klein avec la collaboration de Thierry Beauchamp. À la technique Grégory Wallon et à la réalisation Luc-Jean Reynaud et Charles Trou. Dans un instant, vous retrouvez la dictée géante de Rachid Santaki et Olivia Gesbert.